Nous sommes le mercredi 22 février 2023 et nous vous saluons, vous toutes et vous tous qui êtes en place pour écouter le Club La Presse sur Canal FM, sur les antennes de nos médias partenaires, que ce soit sur le territoire national ou un peu partout en Afrique et dans le monde. Nous vous félicitons pour votre fidélité d'écoute et votre collaboration aussi. Toutes les remarques que vous nous faites parvenir, que ce soit en direct pour ceux qui appellent dans l'émission ou bien les messages que vous m'écrivez en écrit ou bien en audio à moi-même et à tous les confrères invités, nous vous en remercions, nous vous lisons et nous essayons de tenir compte de toutes vos suggestions et propositions. Nous sommes bel et bien au rendez-vous aujourd'hui avec la Dame Gazelle Estelle Koudjonou de la Gazelle Info. Bonjour.
Bonjour Sasso, bonjour confrères en studio, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM. Je n'oublie pas les techniciens, bien
naturellement.
Évidemment.
Nous sommes également avec Kokou Sylvestre Béni du journal La Manchette. Bonjour.
Oui, bonjour Sasso, bonjour à toutes et à tous.
Et comme c'est mercredi, nous allons parler santé naturellement par la voix et par les titres de santé éducation. Kokou Gameli Gadiel Tchonyadji, bonjour.
Sasso, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin.
Et nous saluons naturellement les techniciens Victor Gbe, Koko Michel Tominga et Jérôme Dakoucha qui va nous rejoindre incessamment. Cette tradition que nous respectons, savoir que nous nous laissons inspirer par un grand penseur. Aujourd'hui, la pensée du jour nous dit, Estelle, dans la vie, on ne te demande pas d'être parfaite, mais seulement que tu sois vrai. Dans la vie, il ne faut pas nécessairement être parfait, mais il faut être vrai.
Il suffit de faire même un tour sur mon statut, je crois que c'est comme ça on l'appelle dans WhatsApp, c'est, j'ai dit juste « sois toi mm-hmm. », c'est juste moi.
Sois toi, sois vrai et sincère avec toi-même.
C'est tout.
Merci au menu du Club La Presse, vous avez compris, nous allons parler santé, santé éducation, notamment comment manger pour entretenir sa santé, mais sur le plan sociopolitique, ça fait 3 ans, nous étions aux urnes le 22 février 2020. Et si on ajoute, ça fait 18 ans qu'il est au pouvoir. Lui, c'est Faure et Sozimna Nyasingbe. Les journaux se le rappellent. Et avec également une extension dans les rangs de l'opposition, nous allons en parler. Comme le rapport d'audit de la Cour des comptes sur les fonds de la COVID-2020, ce rapport qui a fait l'objet d'un échange entre une importante délégation des ministres qui étaient sur les bancs de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que les uns et les autres se sont dit ou bien ont dit sur ce rapport? Nous allons en parler également comme des questions de proximité, notamment le désengagement des voies publiques. Qu'est-ce qu'il faut en comprendre? Quelles sont les analyses ici et là? Et également Togocom qui, d'un côté, a rencontré ses syndicats hier pour s'entendre sur une convention collective, mais laquelle est la même Togocom qui n'a pas encore levé son mot de désactivation des Wi-Fi zones. Voilà ce qui va nous occuper durant ces 60 minutes. Et après, à partir de 12 heures, vous allez naturellement entrer en ligne. Et nous vous prions seulement de dire toute votre vérité, mais juste en vous en tenant au sujet que nous aurons développé. Et si vous pouvez également faire preuve de courtoisie et d'élégance dans vos interventions, c'est nous tous au Club La Presse et nous tous au Togo qui en sortirons gagnants. Mais Gadiel, pour faire tout ça, il faut être en bonne santé.
Oui.
N'est-ce pas?
Tout à fait.
Quelqu'un a dit que ton alimentation soit ton premier médicament.
Absolument.
Et santé, éducation, il revient aujourd'hui à la page 3. Une alimentation équilibrée, voilà la clé d'une bonne santé.
Le débat est toujours sur cette thématique, la bonne alimentation, mais l'alimentation équilibrée. C'est quoi une alimentation équilibrée? C'est, on peut donner un exemple, quand vous vous levez durant la journée, vous savez qu'on a 3 repas par jour. Alors, ce qu'on prend comme petit déjeuner doit varier du déjeuner et doit varier du dîner.
Mmh. Et pas la même chose à chaque fois.
Non, pas la même chose à chaque fois. Et ce pourquoi cette communication doit passer, c'est que très souvent chez nous, le matin, par exemple, on prend la bouillie.
Non, chez nous, à goût, le matin, c'est le foufou, à midi, le foufou, le soir, le foufou.
C'est galidou, si, et puis après, galidou, et puis pinon.
Oui, donc on prend la bouillie à bas du maïs le matin, et puis à midi, on prend la pâte à base de maïs, et puis le soir, on peut prendre comme, donc à bas du maïs. Ça, c'est pas une alimentation équilibrée. Donc, c'est de respecter un peu la règle que donne l'OMS, fruits et légumes, hein, et puis aller vers d'autres alimentations, ou bien d'autres aliments aussi, en ce qui concerne les protéines, en ce qui concerne d'autres nutriments dans d'autres aliments. En tout cas, dans cet article, il est donné à tout chacun de mieux comprendre ce qu'on appelle une alimentation variée, qui est l'une des clés de la bonne santé et l'une des clés d'éviter plusieurs pathologies.
Nous ne cesserons jamais d'en parler, alimentation équilibrée comme clé de notre bonne santé, et que notre alimentation soit notre premier médicament. Et pour cela, Santé Éducation nous rappelle cette recommandation, à savoir 80% d'aliments d'origine végétale et 15% d'origine animale. Et il nous reste 5% qu'on peut chercher dans les produits transformés.
Voilà,
si on en a le goût.
Bon, je pense que tout le monde a le goût quand même des aliments transformés. Donc, à 5%, à 3% pour notre règle alimentaire, ça peut aller.
Merci. Dans cette recommandation d'alimentation équilibrée, Santé Éducation revient sur le soja, lequel soja fait l'objet d'une certaine polémique ces derniers temps chez nous. Le soja que Santé Éducation nous présente comme un puissant alicament naturel, mais Gadiel, Santé Éducation est consciente de la polémique quand l'article dit que la consommation du soja soulève actuellement de nombreuses controverses, pendant que certains professionnels de la santé nous le recommandent fortement, d'autres nous dissuadent de consommer le soja.
Oui, cet article, comme vous le voyez, c'est sur 2 pages. Nous avons donné la parole à plusieurs spécialistes, chez nous comme à l'étranger, par rapport au soja. Nous avons lu un certain nombre de rapports, d'études qui sont faites par rapport à cet aliment-là. Vous savez, le soja, nous, on a toujours fait la promotion de la consommation de cet aliment. C'est une légumineuse, le soja, qui fait partie de la famille des légumineuses, comme le haricot, comme l'arachide. Et les légumineuses ont pour vertu de nous donner de la protéine. De la protéine et surtout des fibres aussi. Et aujourd'hui, la promotion de la consommation des légumineuses est internationale. Et la production et la consommation. Le soja particulièrement est très riche en vitamine B. C'est un aliment qui donne beaucoup d'énergie et qui a des dérivés dont le lait, l'huile et puis d'autres dérivés qui nous fournissent un certain nombre d'aliments. Au niveau des Nations Unies, le soja est recommandé pour prévenir et traiter un certain nombre de maladies non transmissibles comme les maladies cardiovasculaires. Le soja est bon pour les femmes, surtout les femmes à partir de 35 ans. Bon pour les hommes, pour la protection de leur prostate. Donc, dans cet article, nous revenons un peu sur les vertus que donne le soja. Mais, c'est que aujourd'hui, on parle plus de comment on extrait les dérivés du soja. D'où il y a à connaître cette science de traiter le soja pour extraire les dérivés qui puissent être des aliments, comme nous les appelons dans cet article, des alicaments pour notre santé. Mm-hmm. Voilà. Donc maintenant, aujourd'hui au Togo, la question de savoir, quand on fait le soja, on frit le soja dans les rues, on achète, est-ce que c'est du bon? C'est ça aussi la question. Mm-hmm. Mais nous savons qu'il y a des maisons, de grandes maisons au Togo, qui nous ont habitués à consommer le soja avec ses dérivés. Je pense que c'est... En tout cas, nous, cet article, on l'a écrit pour lancer un appel au ministère de la Santé, au ministère de l'Agriculture, aux producteurs du soja, à des maisons comme nous, Santé Éducation, qu'on aille à une journée porte ouverte sur le soja, le Togo aujourd'hui est en tête de liste de production au niveau mondial. Donc, montrer aux Togolais c'est quoi le soja, quelles sont les techniques pour travailler le soja, comment nous devons consommer le soja.
Merci, et je pense que ce serait mieux. Le Togo est en tête mondiale pour le soja bio.
Le soja bio, bien sûr.
La précision est utile.
Tout à fait.
Eh bien, le soja, s'il est bien traité et si les dérivés sont bien préparés, on peut en tirer davantage. Et l'article donne le profil nutritionnel du soja qui peut aider à l'équilibre hormonal, il peut aider à diminuer le cancer du sein, aider à éviter le cancer de la prostate chez les hommes, aider à renforcer nos os, aider à empêcher également la thrombose, soigner les reins, procurer de la bonne santé à nos reins, une alimentation pour les enfants, également prévenir le cancer. Voilà, si les dérivés sont bien extraits et bien préparés. Mais Gadiel, la polémique a été allumée dernièrement par cette intervention, cette conférence de notre ami Dr Jean-Paul Amégan, qui a dit que pour lui, le soja était déconseillé pour les humains, recommandé plutôt aux animaux. C'est sa position, d'autres le soutiennent, certains le soutiennent, d'autres le combattent, en recommandant vivement le soja. Eh bien, c'est ça le propre de la science, jusqu'à ce qu'on trouve la vérité grand V.
Bon, cet article, on le recommande à tout le monde. Nous, on a donné un certain nombre de preuves scientifiques, des études qui sont faites pour recommander la consommation du soja, bien sûr, comme vous venez de le dire, bien traité.
Merci beaucoup. Alors, de l'alimentation équilibrée à ce que nous mangeons de notre dans notre terroir, et il y a la cuisine Ebe, Mina, Akposo, Akebu, Kabier, Kotokoli, Moba. C'est tout ça qui fait l'objet d'un festival international de la marmite. Nous avons connu la première édition l'année passée. Le lancement de la deuxième édition du FESMA vient d'être fait hier. Des journaux, j'ai vu Gazelle Info, j'ai vu Le Libéral. J'ai vu aussi la manchette qui nous parle du lancement du festival, le FESMA, avec les innovations au menu et que nous allons découvrir courant avril quand nous serons au jour.
Oui, oui, c'est bien cela. Il y aura quand même des innovations puisque pas plus tard qu'hier, donc le comité a lancé officiellement donc le FESMA. L'une des innovations, c'est que cette fois-ci, les régions du pays vont aussi connaître des activités, notamment à Nero, à Kara, à Tapamé, à Palimé. Et donc, Lomé étant donc au cœur donc de l'événement, et ça se tiendra non plus au niveau donc de l'esplanade du palais des congrès de Lomé, mais cette fois-ci au CITEF, Foire Togo 2000 qu'on l'appelle communément. Et donc, il y a toute une panoplie donc d'activités qui seront donc au menu, et ça prendra 10 jours puisque ça commence donc du 26 avril donc au 9 mai. Donc il y aura des expositions vertes, il y aura des ateliers, il y aura des masterclass. Il y a tellement donc d'activités qui est également au menu de la deuxième édition.
Merci au FESMA qui nous fait revisiter notre culture cuisinière. Ce que nous mangeons un peu partout au Togo, depuis l'océan jusqu'à l'orée du Sahel, en passant par Yoto, chez Estelle, la cuisine togolaise est assez riche. Maintenant, c'est à nous d'en faire la promotion, n'est-ce pas?
Bien évidemment, le créneau est assez idéal pour constituer un melting pot de la cuisine togolaise. Donc, l'initiative est louable et bon vent surtout.
Merci. Revenons et terminons avec Gadiel sur cette attention qu'il faut prêter aux enfants, nos petits-enfants, quand ils commencent à aller à l'école et que déjà à l'école, l'enfant se voit contraint de s'approcher à un mètre du tableau avant de lire, et quand l'enfant revient à la maison pour faire son devoir, il colle pratiquement le cahier ou le livre à ses yeux. Ça veut dire qu'il y a problème, n'est-ce pas, Gadiel?
Tout à fait. Vous savez, comme vous venez de le dire, très souvent, les enfants à l'école, il y a un problème. Le problème, c'est que l'enfant doit bien regarder au tableau pour bien copier les leçons et tout et tout. Mais très souvent, quand les enfants reviennent à la maison, c'est mal copié ou bien ce n'est pas du tout copié. Mm-hmm. Et il y a des enfants qui n'arrivent pas à expliquer réellement à leurs parents ce qui se passe. L'enseignant aussi, s'il n'est pas informé. Donc, il y a des enfants qui demeurent dans ce problème jusqu'à un certain nombre d'âge. Et là, cet article, c'est pour éveiller et les parents et les enseignants, en tout cas les acteurs au niveau éducatif. Il y a certains enfants, ils ont des problèmes de regarder très loin.
Notamment la myopie.
La myopie. Donc, quand les enfants viennent à la maison, nous les parents, nous devons leur demander, est-ce que là où vous êtes, vous regardez bien au tableau, vous voyez clairement les phrases qui sont écrites au niveau du tableau. Et si l'enfant dit non, dit oui, il faut commencer par approcher l'enseignant et aller faire des tests. Et cet article, c'est suite à une histoire qu'un parent nous a racontée par rapport à son enfant. Il battait l'enfant parce que l'enfant, il pense que l'enfant est paresseux, il ne veut pas si. Or, l'enfant a un réel problème de vue en classe. Donc, c'est pour éveiller les parents. Faisons attention à nos enfants par rapport aux yeux. Les yeux des enfants, les yeux des adultes peuvent avoir des problèmes. Les enfants aussi, très tôt dans l'âge, peuvent avoir la myopie, l'hypermétropie, un certain nombre de problèmes d'yeux. Et si on le détecte très tôt, on peut les aider à mieux voir.
Merci. Ces facteurs et signes que le parent attentionné doit détecter bientôt chez son enfant. Est-ce que l'enfant souffre de myopie? Il le saurait par ces facteurs et signes. Laquelle myopie peut être transmise à l'enfant de façon héréditaire?
Oui.
Soit c'est le papa ou bien la maman.
Tout à fait. Tout à fait.
Bon, moi, je l'ai hérité de mes parents que j'ai transmis également, malheureusement, à mes filles. Oh. Voilà pourquoi Patom Fabrice doit encourager les enfants à réduire le temps d'utilisation de téléphones portables et autres appareils électroniques. Faire attention à l'enfant, comment il lit à la maison, comment il copie ses devoirs, et surtout le soir, même si on n'a pas le temps. Il faut vérifier les cahiers de l'enfant. Et ainsi, Fabrice, tu sauras si l'enfant a bien copié les leçons à l'école ou bien s'il y a des trous. Et si tu demandes à l'enfant pourquoi il y a des trous, peut-être que tu vas commencer à savoir. Bonjour d'abord, Fabrice.
Oui, bonjour et bonjour à tous les auditeurs, à tous les confrères ici présents. Effectivement, santé et éducation fait bien quand même d'aborder un sujet très important pour les enfants parce que ne sachant pas de quoi il est question, ils vivent avec un mal qu'ils croient parfois normal. Effectivement, quand vous vérifiez, surtout à un niveau à partir du cours moyen, par exemple, quand vous vous rendez compte qu'un enfant n'écrit pas, par exemple, sur les lignes, c'est-à-dire que l'écriture chevauche, je crois que ça fait partie des éléments qui peuvent vous alerter, vous allez vous demander, mais est-ce que c'est lui qui ne sait pas écrire? Et généralement, quand vous vérifiez, il va vous dire qu'il est à une place où il ne voit pas bien. Mm-hmm. Alors, donc, vous faites la démarche du côté de l'établissement. Naturellement, tous les enfants ne peuvent pas occuper le premier banc. Et là où il est aussi, il y a des gens peut-être qui sont à la même place, mais qui voient bien. Donc, c'est des éléments tout de suite qui peuvent attirer l'attention d'un parent pour se rendre compte qu'en réalité, du point de vue vision, ce n'est pas normal au niveau de l'enfant et prendre les dispositions dès le bas âge, puisque à ce niveau-là, c'est possible de corriger jusqu'à un certain âge. Donc, c'est très important. Mais quand vous ne faites pas cet effort-là, l'enfant ne vous dira jamais. Ou alors, il y en a qui se frottent les yeux avant de voir clair. Et il est obligé de fermer un œil, de tenter de fermer un œil avant de bien visualiser tout cela. C'est des signes anodins, mais qui doivent préoccuper les parents, effectivement.
Et s'il y a des signes où on s'inquiète, emmenez le petit chez l'ophtalmo qui va nous situer si l'enfant souffre d'un début de myopie ou bien d'autres maladies pour les yeux. Même chose également pour les dents, puisque Santé Éducation parle de la maladie parodontale. Attention, si c'est pas bien soigné, on peut perdre ses dents prématurément, tout comme l'enfant peut souffrir de pied bot. Le pied bot qu'on peut traiter si on s'y prend également à temps et si on a les moyens d'avoir le centre hospitalier adapté à côté.
Oui, aujourd'hui, le CNAO offre cette prestation à tous les enfants qui sont dans cette situation. Donc, l'appel est lancé. C'est une prise en charge que le gouvernement prend en charge au niveau de c'est un projet, un programme actuellement qui prend ces enfants en charge. Donc tous les parents qui ont des enfants qui naissent, qui ont des pieds beaux, des pieds en rondelette, ils sont pris de conduire ces enfants au niveau du Sénat.
Merci. Pied beau, c'est pas pied beauté, hein. C'est pas pied B-E-A-U, mais c'est plutôt oui. Pied B-O-T.
Mais il faut relever même que est-ce qu'on doit dire dans l'ignorance ou dans les pratiques traditionnelles, on dit c'est un enfant qui doit devenir un grand joueur, hein, qui a les pieds comme ça, que se démarque. Oui, généralement, c'est ce qui se dit. Ouais, ça se dit. Généralement, c'est ce qui
alors
se
que,
dit.
Ben, Messi, Ronaldo n'ont pas le pied beau. C'est un grand joueur. Merci. On va terminer avec cet entretien qui va intéresser les femmes. C'est une interview que Dr Kafui Amewi vous a accordée. Elle est responsable à une clinique de la place. Elle a parlé dans cet entretien des règles des femmes.
Tout à fait. C'est une interview que nous recommandons aux femmes. Ça, c'est parce que la spécialiste est revenue sur le sexe de la femme. C'est-à-dire que le vagin, c'est quoi et tout ce qui concerne les règles. Eh bien, les menstruations, quand je pense même un aspect dans cette interview, les menstruations, c'est très important dans la vie de la femme. Mais très souvent, il y a des femmes qui négligent ce côté. Elles commencent les règles, elles atteignent 5, 6 jours. Après, ça fait 3 jours, elles s'en foutent pas mal. Pour elles, c'est mieux que ça finisse tôt. Mais c'est très grave si il y a des troubles de règles. Hein, s'il y a des troubles, ça vient aujourd'hui, ça s'arrête demain, ça revient après. Et il faut voir l'aspect des règles. Est-ce que c'est fluide, c'est vraiment du sang rouge, s'il n'y a pas de caillot. Donc, la spécialiste a donné beaucoup de conseils aux femmes par rapport au sexe, par rapport à leur sexe, à la menstruation. Et puis, toute la vie sexuelle de la femme, la gynéco est revenue sur cela. C'est une interview importante pour les femmes.
Merci. À propos des menstrues, des règles, j'ai suivi une émission sur RFI lundi qui informait que l'Espagne vient de voter une loi qui permet aux femmes de demander un congé en période de menstrues. Je parle d'Espagne, c'est pas au Togo. Eh bien, revenons chez nous au Togo, justement, où il y a 3 ans, nous sommes allés aux urnes, c'était le 22 février 2020 pour l'élection présidentielle à l'issue de laquelle Faure Gnassingbé a été déclaré vainqueur. La polémique, vous le savez, avec Agboyome Kodjo et son mentor Monseigneur Kodjo qui continue à clamer à qui veut s'entendre qui sont les grecs, qui sont les réels vainqueurs de cette élection. Mais la réalité, c'est que Faure Gnassingbé est au pouvoir jusqu'à ce matin, jusqu'à 11h24, c'est lui qui vient de boucler la 3e année de son mandat en cours. L'occasion que saisit la dépêche pour parcourir un peu la présidence de Faure Gnassingbé avec cet article que je laisse le soin au chef de l'État d'apprécier. Quand la dépêche écrit « République de copinage, de scandale, de pillage et de l'impunité, fort, ce nom symbolise les espoirs déçus ». Et autre journal également, c'est le triangle des enjeux qui parle lui aussi de la présidence de Faure Gnassingbé avec cet article que nous allons trouver bientôt. Oui, le triangle des enjeux parlant de la présidence de Faure Gnassingbé qui écrit « Entre les vrais criminels et les vrais faux criminels, Faure Gnassingbé choisit ses amis ». Voilà l'appréciation que chacun peut faire de la présidence de Faure Gnassingbé. Je ne sais pas si quelqu'un, Estelle, Fabrice ou Sylvestre, un mot sur ce 3e anniversaire du mandat en cours. Estelle? Ou bien RAS?
Bon, disons, le mandat en cours... C'est vrai, plusieurs événements, plusieurs faits l'ont émaillé et que continue pas à l'émailler. Je me garde de me prononcer pour le moment à la fin. On fera le point et se prononcer plus de manière exhaustive.
Merci. Fabrice?
Je dirais tout simplement que c'est vite passé. On ne dirait pas qu'on a déjà bouclé 3 ans dans un mandat de 5 ans. Mm-hmm. Ça voudrait dire que ceux qui font bien de rappeler cela suscitent, en tout cas ceux qui ont envie de postuler à la magistrature suprême, de se préparer, parce que à 2 ans, le mandat est pratiquement fini. Mmh. Et on doit se préparer à de nouvelles élections en 2025. Mmh. C'est vrai qu'on n'a pas vite passé cela parce que le Togo avait une particularité. Juste après cette élection, nous sommes rentrés dans une crise sanitaire.
Oui.
Où pratiquement le monde a dormi pendant longtemps et avant que les activités ne reprennent.
Et la crise sanitaire n'a pas fini quand une certaine crise économique doublée encore d'une crise sanitaire sécuritaire, tout cela fait que nous n'avons peut-être, c'est ce qui fait peut-être que tu n'as pas eu le temps d'évaluer les 3 ans de ce mandat en cours. Eh bien, 3 ans après 2000, à partir de 2027, que nous sommes à 2 ans de la prochaine élection présidentielle, mais avant la prochaine élection présidentielle, il y a d'autres échéances électorales. C'est ce que nous rappelle le journal La Lanterne, qui écrit: à quelques mois des élections régionales et des législatives, l'opposition togolaise disparue des radars. Pendant que La Manchette lui écrit: de l'union à la mobilisation des masses, la paix des braves, Abia Nicodam du Parti des démocrates qui appelle les leaders à taire les rancœurs. Pendant que La Dépêche s'intéresse à l'ANC, Alliance Nationale pour le Changement, avec cette information qui a commencé comme rumeur et qui devient plus ou moins vraie, sinon assez vraie. Il s'agit de M. Ouro Akpo Tchagnao. Certains disent qu'il est suspendu par les instances de son parti. D'autres laissent croire qu'il serait exclu. Quelles en sont les raisons? Si vous lisez La Dépêche, vous le saurez. Un autre journal parlant de la suspension ou de l'exclusion de Ouro Akpo Tchagnao écrit que l'ANC se met sur les traces de l'UFC, pendant que La Manchette, Sylvestre, ton journal écrit, parlant de la suspension de Ouro Akpo Tchagnao, le G9 exige la fin de la stratégie de la terreur. Et pour terminer avec lui, avec l'ANC, là c'est une information officielle, le parti a sorti un communiqué portant exclusion de 7 militants de la Fédération Europe-Asie. Voilà le tout de quelques partis de l'opposition dont parlent les journaux aujourd'hui. Sylvestre, d'abord pour Ouro Akpo Tchagnao, est-ce qu'il est suspendu ou exclu par son parti?
Non, pour l'instant nous n'avons pas quand même de documents officiels. Selon les rumeurs, ce sera fait demain ou après-demain, c'est ce que nous apprenons. Mais permettez que je puisse dire un mot avant de revenir rapidement sur la question de l'opposition en ce qui concerne donc les trois ans
du mandat en cours de
Fon Yassine. Moi, je dirais qu'avant, nous avons eu un mandat social. Maintenant, nous avons un mandat scandale. En fait, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, parce qu'il y a tellement donc de crimes économiques, bien sûr, que nous avons observés depuis lors et qui... Et malheureusement, se perpétue, quoi. C'est comme si nous sommes dans une république de camaraderie. Vous voyez? C'est ce qui se dessine, quoi. C'est ce qui saute aux yeux. Alors, et parenthèse fermée. Alors, pour revenir donc à l'ANC, oui, c'est ce que nous avons appris, que l'ancien député donc de Tchaoudio, de la région centrale, Ouro Akpo Tchagnao, a été suspendu, et donc du parti. Et donc, il y avait aussi quelques militants de ce parti-là qui sont dans la diaspora, qui se réclament d'une entité au sein donc du parti à Péré Genève, qui avait quand même demandé à ce qu'on puisse les réintégrer Ouro Akpo Tchagnao. Et donc, cette entité aussi, depuis la présidentielle 2020, avait aussi demandé à ce qu'on puisse aller à un congrès extraordinaire pour... redéfinit donc la ligne politique donc de l'ANC. Et donc ils sont beaucoup plus incisifs sur ce parti là et nous avons appris que le 21 ou le 22 dernier, ils ont été exclus. Exclus définitivement donc de l'ANC. Donc voilà ce qui se poursuit à l'horizon. Maintenant, pour Ouro Akpo Tchagnao, il y a quand même et quelques informations qui circulent ça et là, que le député aurait des accointances avec ma personne, Voilà, ça.
Toi
c'est...
même.
Oui, bah personne, parce que c'est ce qui se circule. Et même il y a même un confrère qui a, a écrit donc un article là-dessus, qui aurait donc des accointances, c'est que le député a publié deux tribunes donc dans notre journal. Mais moi, je fais observer que Ourako Tchayao, c'est pas la première fois qu'il a publié donc des tribunes dans notre journal. Il le fait depuis. Et les deux tribunes qu'il a publiées, ça n'a rien à voir avec la politique. C'était des réflexions politiques. Vous connaissez le gars, c'est, il est compétent, il est très intelligent. Quand il prend sa plume pour des analyses politiques, il le fait si bien. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que, parce que un membre de l'ANC a publié dans notre journal et on pense que, hein, parce que nommément j'ai été cité, hein, j'ai l'article, je peux quand même vous balancer, j'ai été cité, et je pense que si on en arrive là, parce que quelqu'un, parce qu'on nous présente, c'est-à-dire on me présente comme un ennemi de Jean-Pierre Fabre. Et si vous lisez l'article, c'est ce qu'il a dit. Vous voyez que c'est dommage, quoi. C'est-à-dire que nous sommes descendus à un niveau où quelqu'un qui publie une analyse dans un journal, parce qu'on estime que le responsable du journal est ennemi de Jean-Pierre Fabre. C'est-à-dire ma personne, ma petite personne, je suis ennemi donc du grand Jean-Pierre Fabre. Et donc, vous voyez, donc c'est quand même dommage qu'on en arrive là. Mais nous, nous prenons tout cela sportivement parce que nous avons pris acte. Jean-Pierre Fabre a tellement communiqué dans mon journal. J'ai publié tellement d'interviews chez Jean-Pierre Fabre. Nous avons couvert beaucoup donc d'événements de l'ANC. Maintenant, aujourd'hui, on estime que, parce que parfois nous prenons des positions qui ne sont pas dans la ligne donc, de l'ANC et que quelqu'un d'autre aurait, du même parti aurait publié une tribune. Donc nous sommes devenus ennemis et donc on lui fait donc... tellement donc de misère. Donc le monsieur a été suspendu pour le moment. Ce que nous apprenons peut-être demain ou après-demain, ce sera officiel. Mais nous, nous prenons hâte et nous sommes là. Et puis, bon, on attend. Voilà, c'est triste, quoi, c'est ça.
Finalement, tel journaliste est proche de ceci ou bien éloigné de cela. C'est l'information que nous essayons de traiter au jour le jour. Cette information qui porte également sur... la polémique qui continue à être entretenue, notamment les commentaires sur le rapport d'audit de la Cour des comptes sur la gestion du fonds de réponse solidarité Covid 2020 depuis le 1er février, je dirais même, le journal Liberté avait été le premier à en parler le 30 janvier. Depuis, il n'y a pas de jour où nous n'en parlons pas. Et puis hier, ça a été le menu de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Pour les uns, c'est l'Assemblée qui a souhaité écouter le gouvernement sur le rapport. Pour les autres, c'est le gouvernement lui-même qui a demandé la session extraordinaire pour se prononcer ou bien pour donner sa version sur le rapport. Mais Fabrice, on peut se réjouir que cette initiative doublement prise et par le gouvernement et par l'Assemblée d'échanger sur le rapport de la Cour des comptes, ça veut dire que ni les uns ni les autres ne sont vraiment pas indifférents à cette polémique.
Oui, bien sûr, c'est vrai que bon, tu fais bien de relever cela. Est-ce que c'est l'Assemblée qui a interpellé le gouvernement pour plus d'explications ou c'est le gouvernement qui a décidé de lui-même d'aller devant les députés? Je crois que le premier scénario est plus habituel que le second. Puisque quand on prend... Moi, je suis dans une logique. Pour moi, quand le gouvernement sort un communiqué pour plier l'affaire, pour dire que tout est bon, ils vont mettre sur pied... Enfin, mettre en œuvre des réformes. J'avais l'impression que l'affaire était clôturée au niveau du gouvernement. Il n'y avait plus rien à faire. Il suffisait juste de mettre... en œuvre les réformes. Mais maintenant qu'ils se retrouvent devant les députés, pour moi, ce sont les députés, l'Assemblée nationale, qui a souhaité mieux comprendre. Et je crois que c'est leur rôle en réalité. Puisque toi et moi, nous devons comprendre ce qui s'est passé. Et puisque nous n'avons pas la possibilité d'inviter le gouvernement à comprendre ce qui s'est réellement passé individuellement, il est prévu un mécanisme. C'est-à-dire des gens qui représentent le peuple dans un endroit qu'on appelle Assemblée nationale. Et c'était cet exercice-là qui a été fait, où les uns et les autres, en tout cas les ministres qui étaient présents, ont défilé un à un pour essayer d'apporter des explications sur le contenu de ce rapport, notamment certains points d'ombre qui ont été soulevés. Donc ça voudrait dire que bon, tout n'est pas parfait dans le rapport, comme le gouvernement l'a dit dans le titre, même si dans le contenu de leur communiqué, ils reconnaissent quand même qu'il y a des éléments à éclaircir. Et l'exercice, c'était normal. Maintenant, il nous fallait peut-être avoir le temps pour interroger les députés pour voir est-ce qu'ils ont été convaincus par les explications qui ont été données par les différents membres du gouvernement. L'exercice en valait la peine. C'est pour cela, moi, personnellement, je n'étais pas d'accord quand le gouvernement semblait clôturer l'affaire là tout de suite en disant, bon, c'est bon, tout est bon, on va juste mettre en œuvre des réformes. Parce que l'histoire va retenir beaucoup de choses et des noms sortiront à des années où on dira aux gens, vous avez mal géré ceci. Il fallait au moins leur donner l'occasion pour qu'ils puissent s'expliquer. Maintenant, ils se sont expliqués. L'autre paire de manches, c'est de savoir s'ils ont convaincu les députés. Certains sont revenus sur des choses qu'on savait déjà. Mais par exemple, hier, il y a un élément qui m'a un peu frappé. La question du logo, également, qui a fait le tour du monde. Alors, le ministre de la Sécurité dit, puisqu'on avait parlé de 15 millions, ministre de la Sécurité
15 millions 500 000.
Oui, 500 000. Dit qu'en réalité, c'est 150 000 que le logo a coûté. Mais il y a eu d'autres frais pour d'autres choses qui s'ajoutent. Donc, toutes ces informations-là, il fallait quand même donner l'occasion aux gens pour qu'ils s'expliquent. Maintenant, tous les Togolais sont intelligents. Les explications ont été données. Il revient à chacun de voir qui ment et qui dit la vérité dans tout ce qui a été fait hier au niveau de l'Assemblée nationale. Je crois que la ministre de l'économie numérique également a contesté aussi un chiffre qui était dans ce rapport-là. Maintenant, entre la Cour des comptes et le gouvernement, qui dit la vérité, bon, je ne sais pas si c'est à nous de trancher. C'est pour cela, pour moi, j'estime que ce n'est pas encore fini. Il faut encore aller de l'avant pour mieux comprendre effectivement ce qui a été dit, puisqu'il y a eu des accusations qui ont été refoulées. Est-ce qu'on s'arrête là? Pour moi, on ne s'arrête pas là. C'est pour cela que je n'étais pas d'accord avec le gouvernement. Ça m'a valu ce que ça peut me valoir, mais je continue toujours par dire que je n'étais pas d'accord avec ce communiqué qui semblait plier tout de suite l'affaire et nous demander de vaquer à autre chose.
Merci. Revue de presse avec le journal Togo Matin qui écrit ce matin que le gouvernement a apporté des éclaircissements aux élus du peuple. Le libéral également titre, le gouvernement s'est expliqué devant le Parlement. Mais la dépêche, lui, trouve de gouverner par la peur au pillage des fonds Covid. Les promesses de Mme Dogbé de nous rendre compte régulièrement tournent court. Alors, j'ai écouté un peu les commentaires, j'ai lu également quelques éléments de langage. Alors, je note par exemple le condensé de ce que le ministre Payadoua Boukouissi a dit hier. Je le cite à peu près. Les dépenses faites dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 sont régulières, conformes et sincères. Les quelques insuffisances relevées n'entachent en rien les procédures requises en la matière. L'essentiel, je cite, Payadoua Boukouissi, l'essentiel est que les mesures économiques, sociales et financières ont permis de soulager les populations en difficulté. Je prends également un extrait de Mme Chantal Tchégan, la présidente de l'Assemblée nationale, qui a salué, citation, « l'ingéniosité, l'engagement, le sens de responsabilité, le respect et la protection de la vie humaine et particulièrement la vie du citoyen togolais, le sens de l'anticipation dont a fait preuve le gouvernement. » Et plus loin, Mme Tchégan qui dit que c'était une période où il fallait faire preuve de stratégie et de célérité. Même si on peut relever quelques insuffisances dans le rapport d'audit, l'essentiel pour la présidente de l'Assemblée nationale, l'essentiel est d'avoir sauvé des vies humaines. Fin de citation. Alors Estelle, voilà quelques extraits de ce que le ministre Payadoua Boukouissi a dit et également l'appréciation de la présidente de l'Assemblée nationale.
Oui, avant de revenir sur ta question, j'aimerais faire un feedback sur l'intervention de mon confrère Fabrice. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas entendu parler d'une interpellation. Si c'est l'Assemblée qui prend l'initiative, on parle d'interpellation. Du coup, on a plutôt parlé d'une communication du gouvernement conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, il faut dire que c'est l'Assemblée nationale qui a convoqué une session extraordinaire avec deux points à l'ordre du jour et le gouvernement a inscrit en fait sa communication dont l'initiative vient du gouvernement. Maintenant, il revient de se poser la question, eu égard à la note du gouvernement qui est sortie la fois passée, on est dans la logique de croire que bon, les dés sont jetés quoi, il y a plus de soucis, mais quand le gouvernement revient encore pour s'expliquer devant l'Assemblée, on peut également se questionner sur l'intérêt d'approfondir toujours cette communication. Maintenant, revenant à ton développement, qu'est-ce qu'il faut dire encore de plus? Est-ce que ça vaut la peine, le jeu encore en vaut la chandelle, d'ergoter ou d'épiloguer sur ce rapport-là? Puisque le gouvernement n'a pas fait volte-face hier devant l'Assemblée, il est resté dans la même logique. Il reconnaît quand même qu'il y a des petites insuffisances, mais qui sont à son avis qu'une peccadille. Il ne faut pas tenir compte de cela. Bon, ça sert encore d'ergoter, d'épiloguer ou de faire quoi que ce soit. Et ce qui est un peu déplorable, il faut le dire, la meilleure pédagogie aussi, c'est l'exemplarité. Hein. On a vu dans le point critique de la situation, des ministres, certaines personnalités ont été interpellées, ont répondu. Mais d'autres n'ont pas répondu, mais hier, elles se sont transportées à l'Assemblée pour préférer se justifier là-bas. Est-ce qu'à dire qu'on fout au pied l'autorité de la Cour des comptes au profit des parlementaires ou qu'est-ce que ça veut dire? Bon, à chacun de tirer sa conclusion. Mais il faut dire quand même que le peuple attend toujours de ce rapport-là. Le gouvernement s'explique, on essaie de comprendre aussi, mais il y a toujours des insuffisances et la soif est toujours grande.
Eh bien, ce que je sais, hein, la Cour des comptes, ce n'est pas une invention du Togo. Et ailleurs, quand les cours des comptes de certains grands pays établissent leur rapport, la suite, ce n'est pas que le gouvernement aille s'expliquer devant les journalistes ou devant l'Assemblée, c'est que des mesures judiciaires sont prises. Bon, ici au Togo, alors, est-ce que le communiqué du gouvernement, dans un premier temps, le passage de pratiquement la moitié du gouvernement devant l'Assemblée, Sylvestre Béni, à ton sens, est-ce que le débat sur le rapport de la Cour des comptes est clos?
Je vais te demander un exercice. Relis l'intervention donc de la présidente de l'Assemblée nationale.
Je suis votre serviteur. Alors, je l'ai extrait des éléments de langage de la direction de la communication de l'Assemblée nationale. Hein? Donc, la présidente de l'Assemblée nationale a salué l'ingéniosité, l'engagement, le sens de responsabilité, le respect et la protection de la vie humaine et particulièrement la vie du citoyen togolais, le sens de l'anticipation dont a fait preuve le gouvernement, 3 points de suspension, et plus loin, elle dit, c'était une période où il fallait faire preuve de stratégie et de célérité, 3 points de suspension, même si on peut relever quelques insuffisances dans le rapport d'audit, hein, l'essentiel est d'avoir sauvé des vies humaines. Fin de citation.
Nous prenons la dernière phrase. Même si on peut relever quelques insuffisances, l'essentiel, pour elle, l'essentiel c'est qu'on a sauvé des vies. Vous savez, le gouvernement, un parlement, c'est pour contrôler l'action donc, de l'exécutif. Et donc, ils doivent être à l'avant-garde donc, de ces insuffisances-là, qu'elles semblent peut-être banalisées. Parce qu'il dit, non, bon, on a eu, bon, c'est vrai, on a eu quelques insuffisances, mais l'essentiel, c'est que, bon, voilà, quoi, on a sauvé des vies, donc, point barre. Vous voyez, c'est-à-dire que, et après, avant cela, c'est juste une litanie de, c'est versé dans une littérature, hein, en convoquant, donc, le dictionnaire, l'ingéniosité et tout ça, comme si nous sommes, donc, ça nous rappelle, donc, le temps des lecteurs de motion. Vous êtes l'ingéniosité, la nanani, nanana, et après, bon, elle revient et dit, bon, c'est vrai quoi, il y a des insuffisances, mais l'essentiel, c'est qu'on a sauvé des vies. Pour la présidence du Parlement, qui doit contrôler l'exécutif, l'action de l'exécutif, vous voyez, il y a d'autres actions. Moi, je dis souvent que cette affaire n'est pas finie, puisque si vous voyez les organisations de la société civile, ils demandent ouvertement à ce que le gouvernement puisse instruire le parquet, ou à défaut, ils se disent qu'ils vont porter plainte contre X. Ça veut dire que, oui, il peut le faire aujourd'hui. On peut se dire, bon, oui, ça va pas rien donner parce que on connaît un peu la justice. Mais demain, parce que cette affaire, je dis, cette affaire n'est pas finie. Si aujourd'hui on nous dit qu'en réalité, le logo n'est pas 15 millions 500, mais c'est 150 000, quels sont les éléments qui ajoutent à 150 000 puisqu'on se retrouve avec 15 500 000? Quels sont les éléments qui s'ajoutent à 150 000 francs CFA et on va jusqu'à 15 500 000? Vous voyez, j'ai écouté la ministre Sina Lawson qui aussi, dans un premier temps, elle faisait promener les journalistes dans sa littérature et tout ça. Elle donnait même des cours de communication. Vous savez, je vous explique. Et après, finalement, elle dit rien, elle dit l'argent est dans le portefeuille de l'État. Maintenant, si l'argent est dans le portefeuille de l'État, pourquoi est-ce que la Cour des comptes n'a pas su que l'argent est dans le portefeuille de l'État? Donc maintenant, entre la ministre Sina Lawson et le président donc de la Cour suprême qui ment,
Cour des comptes
et de la Cour des comptes pardon, entre le président de la Cour des comptes et la ministre Sina Lawson qui ment maintenant,
qui ne dit pas la vérité.
Parce que l'autre dit non qu'il y a des reliquats qui ne sont pas allés donc sur le compte de l'État. Maintenant la ministre nous dit non que l'argent est dans le portefeuille sur le portefeuille de l'État togolais. Maintenant, entre les deux, bon, qui ne dit pas la vérité, si c'est ce que vous voulez.
Oui, mais à ce niveau, je crois que le rapport au niveau de l'économie numérique qui a géré les questions liées comment ils appellent ça, non-vici, je crois qu'il a écrit quelque part qu'ils avaient été interpellés, mais ils n'avaient pas envoyé, donné d'éléments.
Exactement.
Oui, donc ça voudrait qu'il y avait problème. Donc, on ne pouvait pas nous dire que tout était parfait. Donc, pourquoi les informations qu'elle a données hier à l'Assemblée nationale, c'est bien pour la gouverne de l'opinion, mais pourquoi
elle a refusé
au moment où la Cour était venue, pourquoi elle n'a pas fourni ces informations-là et qu'on attende que le rapport soit publié maintenant avant qu'on ne cherche des éléments de langage pour pouvoir justifier ceci ou cela. Donc pour moi, je crois qu'il y avait quand même des éléments dans ce rapport qui nécessitaient des explications. Bon, que ce soit communication ou quoi, moi je dis qui s'explique s'accuse. Et c'était bien cet exercice-là. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé déjà par accuser des gens d'avoir détourné le riz, d'avoir fait ceci ou cela. Mais et si on s'arrêtait là, ça n'arrange pas non plus les membres du gouvernement. C'est-à-dire si on étouffait tout de suite cette affaire, ailleurs il y a des gens même qui peuvent démissionner du gouvernement pour mieux se défendre. Ouais.
Oui,
parce que l'histoire retiendra si on ne corrige pas ça. Si vraiment les gens n'ont rien gardé, puisque le rapport ne dit pas que les gens ont gardé, mais le rapport dit qu'il y a des choses qui n'ont pas bien fonctionné. Si les gens n'ont rien gardé, et le commun des mortels togolais part avec cette idée que des gens ont détourné, et on raconte ça aux enfants, on écrit ça, des écrits qui vont rester, demain, je crois que eux-mêmes ça ne les arrange pas. On étouffe.
Je rappelle juste qu'il y avait, je crois, 12 ou 15 ministres qui étaient à l'Assemblée. Il y avait également la coordination générale de la riposte, avec toute l'équipe du colonel Djibril qui était là. Les échanges auraient duré autour de 3 heures d'horloge. Mais est-ce que 3 heures d'horloge auraient pu suffire pour commenter un rapport de 61 pages? Et avec les annexes, ça fait 86 pages. Est-ce que 3 heures, ça suffit? Autre fait également, au moment de... avant la sortie du gouvernement, on a quand même senti deux députés. Le député Jerry Tama, qui avait laissé entendre que lui ou l'Assemblée devrait interpeller le gouvernement pour les suites du rapport. On a aussi écouté le député Abbas Kaboua, également dans une sortie assez
tonitruante.
Oui, mais hier, je ne sais pas, puisque je n'étais pas à l'Assemblée, malheureusement, je ne sais pas quelle a été la portée du débat. J'ai écouté un peu ce que Madame Tchégan dit, le vice-président Adjorovi, mais les autres députés, est-ce qu'il y a eu vraiment débat? Et puis, est-ce que, comme le disait Fabrice, est-ce que les députés, individuellement, collectivement, est-ce qu'ils ont été convaincus par les explications du gouvernement? Fabrice, je pense que...
Ils sont là, ils sont là, vous pouvez les inviter, ils vont le dire. Mais sauf les confrères y étaient également. Moi, j'étais en contact avec un confrère qui participait au débat.
Donc, qui écoutait les débats?
Bon, qui écoutait les débats, oui, qui suivait, qui observait, si vous voulez, les débats. Mais bon, ils sont tous sortis déçus.
Qui?
La plupart de nos confrères. Oui!
Non, le plan, c'est pas le journaliste. Oui. Les députés.
Oui, c'est ça. La position de certains députés, il disait, la position de certains députés qui prenaient fait et cause pour le gouvernement. Vous voyez? C'est pourquoi je dis qu'il y a beaucoup qui sont là. Il y a quand même des enregistrements. Ils viendront parler et après on sortira ces enregistrements aussi.
J'espère que les députés, quand nous allons les approcher pour les inviter, qu'ils auraient beaucoup de courage.
Non, bon, moi, ce sont pas des enfants, les parlementaires. C'est des gens qui sont censés avoir quand même une capacité de discernement. Si vous avez eu la chance d'avoir les membres du gouvernement devant vous, et vous n'avez rien dit, ne venez accuser personne. Hein. Donc pour moi, s'ils n'ont rien dit, c'est qu'ils ont été convaincus. Donc moi, c'est comme ça, je considère ça. S'ils n'ont rien dit, puisque c'est l'occasion, ils ont l'immunité parlementaire, on ne va arrêter personne. C'est pas comme un journal où on va dire bon, on va te traîner devant la justice. Ils ont l'immunité parlementaire. Donc s'il y avait des éléments qui était flou pour eux, c'était l'occasion pour eux de le relever. S'ils ne l'ont pas relevé, c'est que quelque part, tout va bien. Tout va bien et bon.
Les conclusions même en disent
oui,
long.
Mais si après ils appellent des gens pour faire des confidences, moi je considère ça comme une lâcheté.
Mais avant le débat d'hier, Actu Express paru hier mardi, titré encore, le rapport d'audit de la Cour des comptes le rapport d'audit de la Cour des comptes abandonné à son triste sort. Sika, pour sa part également, écrit « Détournement de 39 milliards de Covid ». Ça aussi, fort va se taire. C'était des titres de journaux. Je rappelle que ces journaux ont paru avant les débats parlementaires hier. Sans transition, nous allons dans la rue de Lomé avec l'opération de désengorgement des voies publiques. Pour la manchette, dans cette opération de désengorgement des voies publiques, le régime et la politique du marteau. Hein, le régime et la politique du marteau pour la manchette, pendant que Gazelle Info semble plutôt comprendre, puisque Gazelle Info écrit, dans cette opération de désengorgement, il y a des avantages pour la population et le gouvernement se trouve dans une démarche pédagogique. Le messager aussi écrit que pour la cohésion sociale, le gouvernement privilégie la pédagogie et le libéral. Nous rappelle que nous sommes dans la phase de sensibilisation. Sensibilisation qui a commencé le 15 février, qui va finir le 22 février prochain. Et à partir du 23, je ne sais pas si c'est pour les retardataires ou bien les récalcitrants, c'est les bulldozers qui vont entrer en scène. Sylvestre Béni.
Oui, pourquoi nous disons la politique du marteau, vous savez? Et chez nous, on dit souvent que c'est celui qui se promène avec un marteau qui cherche des occasions pour enfoncer un clou. Je reprends. Celui qui se promène avec un marteau, c'est celui-là qui cherche toujours des occasions pour enfoncer un clou.
Avec le marteau, il faut taper sur quelque chose.
Il faut toujours taper sur quelque chose pour faire rentrer. Pourquoi? Parce que, vous savez, on fait tout par la force. Foncièrement, je ne suis pas contre cette mesure de désengorgement, de libérer l'emprise de l'État. C'est une très bonne chose. Mais c'est la méthode qui pose problème. Parce qu'il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Là, c'est-à-dire qu'on peut pas donner trois mois.
C'est sévère. Puis nous-mêmes, les médias, il y a des années que nous nous plaignons que ceux qui encombrent les trottoirs, les places publiques, sont cause d'accidents.
Prenons les faits. Le gouvernement a annoncé la mesure en novembre 2022. Qui a donné, c'est à partir de novembre, on donne trois mois aux gens de déguerpir. Ici, nous sommes dans le cadre des activités commerciales. Et même dans un bail commercial, on ne peut pas donner trois mois à quelqu'un qui est dans les activités commerciales de vider le plancher. Vous voyez, c'est encore beaucoup plus compliqué. Maintenant, si nous prenons, je ne vais pas aller sur le cadre de l'économie, parce que lorsque vous lisez, il y a des données donc, du FMI qui dit que le secteur informel participe à hauteur de 20 à 30% donc du PIB. Donc ça veut dire qu'en fait, ce secteur-là participe également à l'économie nationale. Le fait donc d'aller avec la méthode forte, on risque également à ce côté-là de flotter. Maintenant, il faut, quand le gouvernement avait parlé de la pédagogie, moi j'étais quand même le plus heureux parce que je me dis, donc on fera les choses progressivement. On donnera donc un plus de temps donc aux gens donc de libérer l'emprise. Et puis j'ai écouté quelques maires et qui disent que oui, ils sont tous pour la mesure, mais ils veulent quand même un déguerpissement progressif. Vous voyez, mais aujourd'hui,
en commençant par où?
Bon, on a donné le 15 février, en fait.
Oui,
on a
donné le 15 février. Quand le déguerpissement va être progressif, on commence par Kodjo Viakopé.
Ah bon, ça
en allant vers la gueule.
On sait qu'au moins il y a une date où il faut commencer. Maintenant, lorsque vous interrogez l'histoire dans ce pays, ça a été fait une première fois. Lorsque le maire de Golf 5 était président de la préfecture, de la délégation spéciale de la préfecture du Golf, Kossi Aboka, vous connaissez Sotopla, c'est-à-dire en face du transport routier.
Oui.
Vous vous rappelez qu'il y a...
DTRF.
Oui. Il avait pris entre-temps des catapillaires, tout ça, il avait ramassé les gens en face donc de la DTRF.
Oui.
Et il avait dit, les baraques et les cabanes se sont été déguerpies. Faites... On finit l'émission, allez faire un tour, là, vous verrez. Après, il a planté des arbres. Aujourd'hui, vous allez là, les arbres n'ont même pas un mètre de hauteur parce qu'ils ont été délaissés. Tout ça. Les gens sont presque revenus. C'est là où on va maintenant, les véhicules d'occasion. Vous quittez là, le lycée donc d'Aïdo Gomé. Après le lycée d'Aïdo Gomé, c'est-à-dire après la cité Mokokpo, en allant vers le marché d'Aïdo Gomé, en face donc de Koban. Le même avocat avait quand même cassé les choses là-bas, il disait à l'époque qu'il veut faire espace vert. Et il a ramassé les trucs là-bas, mais allez, ce matin, allez faire un tour. Vous verrez que les gens sont presque revenus et c'est les mécaniciens qui ont occupé l'espace. Donc ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas un projet tout de suite derrière. Donc s'il n'y a pas un projet tout de suite derrière, allez progressivement, allez par la méthode. Merci. Aujourd'hui, les gens sont à la maison, ils souffrent.
Esther, ça veut dire qu'il y a un besoin que les places, que les voies publiques soient dégagées. Bon, maintenant, la méthode, pour y aller, le gouvernement privilégie la pédagogie, mais d'autres trouvent que le temps imparti à la pédagogie est un peu trop réduit.
Oui, il faut comprendre les bien fondés d'abord de cette activité, si on peut l'appeler ainsi. Et c'est en novembre que l'information a été donnée et les populations, certaines ont pris les dispositions, mais d'autres non. Ce que explique mon confrère Sylvestre, ça peut se comprendre, mais il faut dire à l'époque que l'initiative était conduite seule par le maire Aboka. Donc, c'était pas tous les maires qui faisaient l'action de concert. Donc, ça donnait comme impression que c'est lui qui allait vite en besogne et tout. Mais aujourd'hui, étant donné que la décision est prise sur toute l'étendue du territoire national, et l'État a vite compris de revenir avec la pédagogie. C'est ce qu'il est en train de faire, en sensibilisant d'abord dans un premier temps les populations et en leur proposant également. Il faut dire que l'État accusé est en retard sur ce plan par rapport aux nouveaux espaces qui doivent être aménagés pour que les populations puissent déménager ou partir de leur trottoir pour y aller s'installer. Donc, mais l'État est en train de prendre la mesure de la chose en demandant en même temps aux populations d'inscrire leurs besoins et leurs difficultés pour qu'ils puissent prendre
ça en compte. Alors justement, les besoins de ceux qui occupent les voies publiques, c'est après déguerpissement qu'ils doivent exprimer leurs besoins
tout
ou
suite,
avant.
Tout de suite. Puis en même temps, l'État est en train de leur poser la question en même temps que la sensibilisation se fait. Oui. C'est pourquoi je souligne en fait le retard que l'État a pris dans ce sens-là. Mmh. On devait anticiper pour permettre que l'opération se fasse aisément, naturellement. Oui. Donc l'État doit revenir également sur cet aspect pour aller
vite.
Mais bon, pour oui, l'État jugera par rapport à ce qui se passe sur le terrain. L'État jugera, mais il faut quand même noter que les populations doivent comprendre les bien fondés de cette mesure-là pour éviter.
La décision vient de l'État, mais l'opération est à la charge des communes.
Oui, qui dit État, c'est aussi les autorités décentralisées, okay, tout ce qui s'en suit.
Il nous reste une minute. Je voudrais plutôt partager avec vous ce témoignage d'un témoin qui était à l'Assemblée hier et qui semble déplorer qu'il n'y a pas eu de débat entre les députés et les ministres sur le rapport de c'était plutôt des commentaires. Et la séance d'hier était pratiquement une tribune de réquisition contre la Cour des comptes et un peu également contre la presse.
Ouais, mais c'est dommage. Bon, comme je continue de le dire, c'est des gens responsables. Si, après les explications, c'est ce qu'ils ont compris, bon, libre à eux. Mais ce que je suis en train de dire, faut pas après prendre les gens en aparté ou susciter des articles dans des journaux pour dire autre chose. Le débat était là. On voit dans d'autres pays comment ça se passe. Oui. C'est enflammé. Après, les gens sortent, ils passent librement. Bon, peut-être qu'eux-mêmes, ils ont géré aussi Covid. On n'en sait rien. Parce que, bon, de toutes les façons, tout le monde est mêlé dans cette affaire. Mais maintenant, revenons à la question de l'occupation des emprises des voies publiques. Je crois que dès le départ, aujourd'hui, quand on me dit de donner des délais, ceci, par là, c'est, on fait comme si quelqu'un était dans une disposition légale. Et maintenant, on lui dit, bon, voilà, et vous occupez légalement quelque chose, vous n'allez plus l'occuper parce qu'on veut faire ceci ou cela. Je crois qu'il faut avoir en esprit ça. Les emprises des voies publiques n'étaient pas destinées à être occupées.
Oui, sauf Fabrice, bon, mais que ceux qui occupaient illégalement ces voies se sont vus un peu confortés dans
oui,
leur illégalité
oui,
quand on venait
oui,
percevoir
oui,
des
oui,
taxes
oui,
auprès
oui,
de
oui,
leur
oui,
illégalité.
Oui, tout ça là, oui,
dans leur illégalité.
Oui, tout ça là, oui. Tout ça là, ce n'est pas parce que tu as vu un voleur et tu n'as pas crié que tu le soutiens. Moi, je crois que tout le monde, il y a les responsabilités sont à situer à divers niveaux. C'est-à-dire que le gouvernement, à un moment, quand on me dit aujourd'hui que ça a commencé, le débat de l'occupation des emprises des voies publiques n'a pas commencé en novembre, hein.
C'est le communiqué officiel, en fait.
Je parle du débat, sur l'occupation. Oui. Edem Kodjo l'avait dénoncé à l'époque, il était à la prévue. C'est une vieille histoire. Maintenant, le gouvernement a laissé faire. Et jusqu'aujourd'hui, on continue toujours de laisser faire. Et c'est en ce, mais maintenant, on va laisser faire jusqu'à quand? Soit, entre Togolais, on peut s'entendre, on dit, bon, la sécurité, on laisse de côté, la beauté de la ville, la salubrité, on laisse de côté, on avance dans le désordre. Mais si, au même moment, on a besoin de ça, je crois qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête.
Merci.
Maintenant,
merci.
Pour que ça s'arrête, effectivement, il faut une procédure. Jusqu'aujourd'hui, maintenant, on dit, on est en train de sensibiliser. Oui. Mais vous connaissez nos comportements. Moi, je sais que ces sensibilisations-là ne donneront rien. et à un moment donné, soit, et or, généralement, quand l'État demande quelque chose et vous n'exécutez pas et il croise les bras, l'État perd la face. Mmh. Or, l'État ne doit pas perdre la face. Ouais. Ce qui s'est passé avec les femmes des tomates, là.
Oui.
Ouais. Mais l'État a perdu. C'est-à-dire que l'État a perdu la face dans cette histoire. Ouais. Vous pouvez pas aménager un endroit. Vous dites désormais c'est là-bas. Et les femmes disent non. Et finalement, elles prennent le dessus sur vous. Et vous pensez que c'est les gens des baraques qui vont... Et ils seront toujours d'accord pour cela. Il faut que l'État fasse preuve de fermeté.
Merci beaucoup, Fabrice. Il est midi de 3 minutes. Estelle, rapidement, sur un mot sur ton article à la une. L'affaire de Wi-Fi Zone, hein, Togocom qui veut désactiver les 16 abonnés Wi-Fi Zone qui en font un peu activité commerciale. Hein, pour Gazelle Info, Togocom entre méconnaissance des textes et manque de stratégie.
Oui, bien sûr, nous sommes tous au courant du communiqué que Togocom a sorti dernièrement informant qu'il va désactiver les zones Wi-Fi parce que c'est une activité illégale. Et dans la foulée, l'ARCEP lui a donné carrément une réponse cinglante, hein, en l'informant en fait que non, l'activité n'est pas du tout illégale. Et quand on parle de stratégie, Togocom aurait été dans une logique de rappeler plutôt ceux qui installent ces activités-là à se conformer en fait aux tests qui réglementent l'activité. Mais déclarer que c'est une activité illicite au Togo prouve à suffisance que Togocom même ne maîtrise pas les tests qui sous-tendent sa gestion, son fonctionnement sur le territoire. Et ensuite, se questionner si j'interdis ces activités-là à ces personnes, puisque c'est chez lui que ces personnes achètent ces différents forfaits avant de les revendre. Mais si eux n'ont pas de clients, naturellement, ils ne viendront plus vers moi acheter. Ça fait une perte au niveau de son chiffre d'affaires. Mais il n'a pas vu cet aspect-là et déclare tout de suite qu'on va suspendre ou désactiver ces contacts-là. Et il faut aller juste sur la page Facebook de Togocom et lire les commentaires des internautes sur sa page. Et vous comprendrez effectivement que Togocom doit dans un premier temps aller relire ses tests pour mieux opérer et trouver la stratégie pour témoigner le moindre respect à ses
République,
abonnés.
C'est d'abord les lois et en République, nul n'est censé ignorer la loi laquelle loi doit se faire accompagner par l'ordre et la force, et ainsi nous serons en sécurité. 93.5. Eh bien, il est 12h, pas de quelques minutes. La parole est à vous. Vous avez suivi sur les sujets que nous avons évoqués. Maintenant, c'est nous qui attendons vos commentaires, voire vos questions. Les confrères sont à nos côtés pour vous répondre. Bonjour, l'ami. Allô? Allô, j'ai pas le retour. Bonjour, l'ami.
Bonjour.
Oui.
Soyez ma voix.
Oui, nous vous écoutons.
Je salue le plateau. Vraiment, on va dire au Togo, allons-y seulement. Et puis, c'est fini, quoi. Quand j'ai écouté le journal ce matin, si j'avais une maladie tellement grave, j'allais faire une crise.
Heureusement que vous n'avez pas fait une crise, justement.
Eh oui, heureusement. Ça. Vous voyez, à entendre, on dit que c'est comme si on a amené le président de la Cour des comptes. On est allé l'étaler aussi à l'Assemblée nationale qu'il a mal fait son travail. On fait savoir qu'il devait revenir prendre les d'autres d'autres justificatifs avant de publier son rapport. Mais il n'avait pas repris ses justificatifs et que on nous dit que c'est bon. C'est maintenant qu'on donne ces justificatifs-là et... Non, mais je m'écoute ce qu'il dit. C'est maintenant qu'on donne ces justificatifs-là, on nous fait savoir que tout est normal. Bon, en tout cas, ce que moi j'ai vu là-bas, ça ne me satisfait pas. Si je ne sais pas si les autres députés qui avaient dit que à voir le rapport de du président de la Cour des comptes, ils ne seront pas d'accord et ils vont aller jusqu'au bout. Je ne sais pas si ils vont s'arrêter là-bas ou bien ils vont continuer. Merci.
Je vous en prie, d'autres auditeurs également qui nous écrivent pour dire que ce qui s'est fait hier, c'est que ça a été un réquisitoire par le gouvernement et les députés contre la Cour des comptes. Ils craignent que la Cour des comptes ne se retrouve fragilisée dans cette affaire. L'auditeur suivant, bonjour.
Fofo Madogbe.
Mokogbolo.
Nitchobodo.
Nitchobodo.
Madogbe ne amototo katari.
Wakwata ohwe.
Mais bon, on y a un peu bon à moyen chago.
Mais du coup, ma tante en français, bon, gama, à monsieur Mala, c'est bien encore.
Ok. Je voulais seulement dire Babari.
À qui?
Au peuple togolais. Et surtout à la Cour des comptes, à nos grands-parents qui sont là-bas, qui viennent d'être insultés, ou bien fragilisés, comme vous l'avez dit, par l'Assemblée nationale. C'est comme si les Anglais aussi, qui ont mis à l'écart le Premier ministre à cause de non-respect du règlement de la COVID-19. S'il arrivait qu'il y a tremblement de terre au Togo comme
en Turquie, en Syrie,
voilà. Parce que la COVID-19, c'est pas commencé au Togo. Hein. C'est venu après 2 mois, 3 mois au Togo. Et nos dirigeants sont incapables de rédiger, dit que ça venait plat. Et si c'est le pays qui a fait 35 000, et je dis, on prions le Seigneur, hein, pour qu'il n'y ait pas de tremblement de terre au Togo. Sinon, les gens, je ne sais pas si ils vont soulever les pierres sur nous, bien ils vont reposer les pierres. Ben, c'est bon, je vais.
Merci beaucoup, Benoît. Le suivant, allô? Bonjour.
Oui, bonjour Fabrice.
Oui, Didier.
Bonjour, ça, c'est Didier. Bon, ce qui s'est passé à l'Assemblée hier, moi, je suis complètement abasourdi. Hein. Mais je voulais demander, et le grand Kaboua, il n'était pas présent, et le grand officier directement, il n'est pas présent avant que le gouvernement vienne nous leur raconter cette histoire. Donc j'attends leur suite, quoi. Bon, secondo pour le dégabissement de la voie publique, vous savez, les gens qui occupent ces voies-là, les propriétaires des maisons à côté, ils perçoivent des sous chez ceux qui ont déposé ces conteneurs devant. Oui. Donc moi aussi, pour passer ce qui appartient à l'État, faut que l'État, il faut qu'ils quittent la rue appartient à nous tous. Si tout le monde veut faire des désordres comme ça, on va les installer. Est-ce qu'on peut passer? Bientôt, les gens vont venir chier dehors sur le boulevard, on nous dit non, c'est le truc commun parce que ils ne savent pas là où il n'y a pas de véhicule public dans les quartiers, donc les gens peuvent venir chier sur le boulevard, bien sûr, les rues bitumées. Et puis ce qui m'énerve dans ça, je ne suis pas d'accord avec le gouvernement, ils renvoient les gens ils déplacent le problème. Les gens qui sont sur les voies publiques, les grandes voies, ils les envoient dans les petits ruelles où ils encombrent plus les rues même. Mm-hmm. C'est pas normal. Et puis pour finir, pour Togocom, mais moi je pense que ASEP là, il n'a qu'à aussi dire à Move et puis Boss, Canal Boss pour qu'ils installent les Wi-Fi zones. Moi je pense que c'est un harcèlement contre Togo Télécom. À vrai dire, quand moi je vous dis ça, j'ai Togo Télécom à la maison, j'ai Boss au bureau, mais quand je vois les deux, il n'y a pas match, hein. Il n'y a pas Togo Télécom est mille fois mieux que Boss. Mais pourquoi ASEP ne parle pas? Ils n'ont qu'à installer les Wi-Fi zones pour que les gens ne disent pas Canal Boss. Et à Mouf, ils aussi n'ont qu'à faire les Wi-Fi zones. Mais ASEP n'a qu'à s'occuper des trucs qui le concernent. Ça, c'est des trucs privés. C'est des trucs commerciaux entre deux partenaires, entre deux signataires. Ça ne regarde pas. Je vous remercie.
Si, Didier, l'ASEP doit également prendre en charge les précautions du consommateur, de l'usager, et c'est ce qu'il fait.
Oui, mais on a signé un contrat. Maintenant, vous déviez le contrat pour faire autre chose. Si les gens de Wi-Fi, ceux qui utilisent exploitent les Wi-Fi, ils n'ont qu'à aller au tribunal. Il y a un tribunal commercial. C'est pas son problème, ce problème. Mm-hmm. C'est comme les anciens de Togo, les anciens dirigeants de Togo, comme là, essaient toujours de mettre, comme le président l'a retiré, le but était plat. Ils essaient juste de mettre des bateaux dans Togo comme. Merci
beaucoup Didier, qui nous suit partout où il est. Le suivant, bonjour.
Allô, bonjour Charles.
Oui.
C'est monsieur Colani depuis Agoué.
Ah, notre ami Colani depuis Agoué.
Oui, je vous salue.
Le tien là.
Lafier Kaba.
Lafier.
Je salue mon frère Fabrice.
Mm-hmm.
Il ne faut pas qu'il a peur.
Non, il n'a pas peur.
Il faut toujours dire ce qu'il faut dire. Vous avez dit, ça va coûter. Ça doit coûter, c'est vous êtes humain, vous êtes, c'est votre métier. Maintenant, vous faites ça. C'est aussi votre chaîne, hein. Quand on a dissous, force Covid, là, pour mettre l'autre, là. Je lui ai dit, pourquoi? Et c'est malversation. Si cette chaîne, là, et vous m'avez demandé, j'ai demandé pour les journalistes, allez-y vérifier. Maintenant, hier, vous avez mis le plateau. Pour que vous faites cérémonie à l'Assemblée. Tout ce qui se passe, là. D'abord, je demande à celle de l'État. Félicitations à lui. C'est lui qui a prêté serment sur la Constitution. La Constitution claire. Chaque année, la Cour des comptes doit faire son bilan et quoi là, et des comptes annuels. Mais quand ça sort là, il met les faits là, le reste de la justice. Vous l'avez précisé, si c'est une autre chose. Est-ce que nous avons dans la Constitution? Et ici là, ce n'est pas l'Assemblée qui peut nous justifier. C'est la justice qu'on peut justifier. C'est pourquoi nous avons demandé à l'Assemblée solennellement de faire diligence extraordinairement d'inviter ces gens-là et dissoudre vos tiers de pension, dissoudre le gouvernement. Parce que le gouvernement n'a pas coopéré même pas à la Cour constitutionnelle et la Cour des comptes fonctionnaires. Ils n'ont qu'à les justifier à la justice. Ce n'est pas ici. Nous ne sommes pas des enfants. On a mis bien l'école. C'est le 21e, c'est l'heure de la lumière. Nous sommes des humains. On peut être à leur place si Dieu a permis à tout compter. Ils sont là-bas, c'est leur destin. Mais il ne faut pas qu'ils nous regardent comme des amis.
Merci beaucoup, l'ami Colani. Un grand plaisir à vous retrouver. Le suivant, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
Beaucoup de courage à M. Fabrice.
C'est commis.
Oui, vous restez toujours le quatrième pouvoir.
Ah, merci. Donc, merci de nous conforter dans ce pouvoir-là.
Oui, n'ayez pas peur. Dites ce qu'il y a que le peuple est là pour analyser. Sur la démarche du gouvernement d'aller communiquer à l'Assemblée, moi je l'ai aimé, surtout que j'aurais encore souhaité que dorénavant que ça soit diffusé en direct, soit sur Radio Lomé ou TVT où nous tous nous payons, ça fera beaucoup de bien à la société. Ce que j'attendais, l'Assemblée contrôle l'action gouvernementale, donc le gouvernement vient de faire une communication. Je demande à l'Assemblée nationale de convoquer maintenant les ministres qui s'étaient passés pour reprendre la procédure. Comme cela, je pense qu'on en aura un débat. Maintenant, sur ce qu'ils ont fait hier, ce que moi j'ai pu constater, la Cour des comptes a été claire en donnant dans sa lettre de mission le temps qu'il fera
il a envoyé à chaque ministère les lettres. Et c'est deux qui n'ont pas répondu, en l'occurrence la primature et Dame Tina.
Maintenant, plutôt, la ministre de l'économie numérique.
Merci. Donc les autres connaissent la période de la Cour des comptes à faire son rapport. Dès lors que je prends l'exemple du ministre de la Sécurité, qui dit que le logo n'était pas à 15 millions, que c'est à 150 000. Au moment où la Cour recevait les pièces justificatives, pourquoi ne pas joindre les autres pièces? Je prends l'exemple de l'université, où on lui prend 4 millions pour les cafards et les gecos là. Pourquoi dans le libellé, il n'a pas parlé de purification des salles et l'agent, comment dirais-je, GECO, question. C'est-à-dire qu'on veut nous faire croire qu'après 3 ans, on peut justifier, on peut antidater, on peut dribbler tout un peu. C'est archi faux. Ça vient juste de commencer. Il faut dissoudre ce gouvernement-là. J'interpelle vivement le chef de l'État parce que ça fait seulement la face visible de l'iceberg. Comme ça, on peut faire, l'Assemblée peut commanditer un audit pour aller vérifier et on va confronter les 2 audits ou bien les 3 audits pour savoir ce qui s'est réellement passé. On parle de 2020 et non de 2023. Merci.
Merci beaucoup, Michel. Nous avons le temps de prendre le tout dernier auditeur aujourd'hui. Oui, bonjour. Allô? Ah, I am fine, and you?
Not bad, Monsieur Garou.
Monsieur Garou, oui.
Bon, est-ce que vous pouvez me dire, le plateau, ça peut servir aux étudiants et aux élèves, est-ce que le gouvernement de M. Fognatimbe a arrêté quelqu'un pour détournement? Disait que Yadima avait arrêté quelqu'un pour subir la crise. Donc, dis-moi ce que le président pourra arrêter. Merci, bonne journée.
Monsieur Garou, vous êtes Togo comme nous-mêmes. Vous suivez l'actualité au jour le jour. En tout cas, je vais poser la question au confrère voir. Canal FM. Eh bien, il est 12h passé de 21 minutes. Nous avons pu écouter quelques auditeurs. Le débat qui continue, mais que nous allons clore aujourd'hui. Le temps de revenir demain, traditionnel tour de table. Vous avez chacun 1 minute pour une réaction, voire votre carton de fin d'émission. Mais la question de M. Garou, hein, je ne sais pas si quelqu'un veut lui répondre. Sylvestre Béni, plutôt Fabrice Pétézi.
Oui, normalement, si tout fonctionne normal, enfin, si vous permettez la tautologie, il ne revient pas au chef de l'État d'aller arrêter les gens. C'est-à-dire que le pays est organisé, il y a des institutions, les choses sont planifiées de sorte que si chacun fait son travail, ce n'est pas Yadema ou Afor Yassingbe forcément d'aller arrêter quelqu'un pour dire qu'il a détourné. Sur la base des éléments que nous avons, je crois que le procureur aujourd'hui, si effectivement dans ce rapport-là, on ne cible pas individuellement quelqu'un, mais si un ministre peut-être quelque part est inquiété, je crois que le procureur peut écrire pour demander, ça s'est fait dans d'autres pays, pour demander à ce qu'on mette à sa disposition tel pour qu'il puisse répondre. Parce que les membres du gouvernement, je crois qu'ils ont une certaine, je ne sais pas si c'est une immunité, quand même, il faut quand même, avant de les écouter, il faut l'autorisation du chef de l'État. Maintenant, qu'on nous montre qu'un procureur a pris l'initiative et qu'il n'a pas eu une réponse favorable. Sinon, quand aussi longtemps qu'il n'y aura pas ça, moi, je ne vais pas mettre le problème au niveau de Fong Yassingbe. On a tout souvent accusé la Cour. Bon, maintenant, elle a fait. Elle a fait. Quelle est la suite? C'est un peu cela. Elle a fait sa part.
Autrement dit, que les institutions de la République fonctionnent, s'assument, ouais, selon les prérogatives. Oui, c'est venir.
Oui, je m'inscris dans la même logique, parce que le chef de l'État lui-même, il avait dit le 26 avril 2012 que c'est un petit nom qui accapare donc les richesses nationales au détriment de la majorité. Et puis il continue en disant que cela crée un déséquilibre nuisible à la démocratie et à la paix. C'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi. Normalement, après cette phrase-là, ça devait déjà bouger donc au niveau de la justice. Mais rien. C'était en 2012. Nous sommes en 2023.
Il y a 11 ans.
Voilà. Donc ça veut dire qu'en réalité...
Et il y a quelques semaines, le président de la Cour suprême disait encore que Il y a tellement de football, c'est la corruption qui est le sport national au Togo.
Oui, voilà. Il y a corruption jusqu'au cimetière. C'est ce qu'il a dit la dernière
fois. Bientôt même, c'est Dieu même qui va.
Qu'il faut corrompre pour aller au paradis. Vous voyez, donc ça veut dire en réalité que c'est comme si la concussion, la corruption, les malversations, quand même une maison de retraite, et c'est au Togo.
Voilà. Eh bien, carton de fin d'émission.
Non, j'ai pas de carton, mais je vais profiter de l'occasion pour souhaiter un bon temps de carême à tous les catholiques du monde et surtout à tous les paroissiens de Notre-Dame de la Rédemption et surtout au curé Génaradi.
Merci. Voilà. Fabrice?
Non, je veux tout simplement, j'ai pas de carton, mais je veux tout simplement dire que même si les gens parfois estiment que nous ne sommes pas en démocratie, il y a quand même une part de démocratie qui existe. Vous avez cité tout à l'heure le président de la Cour suprême. Ce qu'il a dit, on n'est pas allé là, on l'a pas arrêté. Il a dit qu'il y a la corruption au Togo, mais est-ce qu'on l'a arrêté? On l'a pas arrêté. Donc, on attend aussi voir si dans 2 mois on va sauter le président de la Cour des comptes. Je suis sûr qu'on ne le fera pas. Maintenant, à plus à lui, il n'a rien fait, mais on l'a sauté. Donc, quelque part, au moins, je crois que il faut que chacun fasse le boulot pour lequel il a été nommé là où il est.
Merci. Estelle?
Non, pas grand-chose. Juste dire en fait que le changement ou l'idéal ou encore les valeurs qu'on voudrait cultiver pour notre pays, et ça doit être au niveau individuel, que nous-mêmes nous incarnions ce changement-là, nous incarnions ces valeurs-là et on pourra l'implémenter sur l'ensemble du territoire. Également que les institutions prennent leurs responsabilités. Les cahiers de charges sont là pour intervenir s'il le faut pour la bonne marche de la République. Je n'ai pas de carton.
À propos de la République et du procureur, un auditeur nous signale que le procureur de la République ne peut pas s'auto-saisir si le ministre de la Justice ne lui donne pas les instructions dans ce sens.
Il faut que le gouvernement puisse instruire le paquet
avant qu'il avance. Oui. Bon, donc on comprend. Si le ministre
tu vois.
Bon, à toi, Gadiel, pour ton carton de fin d'émission.
Bon, c'est un carton à l'endroit des usagers de la route, notamment ceux qui continuent de ne pas laisser passer les piétons au niveau du passage clouté. Je ne sais pas comment on appelle ça aujourd'hui. Beaucoup d'usagers de la route ignorent vraiment ce signal sur la route. Ce qui crée vraiment une difficulté pour les piétons de passer. Surtout les élèves, j'ai suivi une scène ce matin, c'est vraiment déplorable. Laissons les gens passer, ce passage coûté, c'est pour les piétons, surtout les élèves qui passent très tôt le matin pour aller en classe. Il faut respecter ce passage-là.
Merci à vous, les confrères invités, aux techniciens, aux auditeurs. Pour satisfaire l'appétit d'une auditrice, le rappel de la pensée du jour, dans la vie, il ne faut pas être nécessairement parfait, mais il faut être vrai. Bon appétit et au plaisir de nous retrouver demain jeudi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.